RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors, violence, racisme, violence policière, l'affaire Floyd aux États-Unis résonne en France. Le gouvernement tient compte de la protestation en annonçant hier des mesures par la voix de Christophe Castaner. Certains attendent que le président Emmanuel Macron s'exprime alors qu'on lui reproche de trop parler. Doit-il donc s'engager sur ce terrain comme l'ont fait d'autres dirigeants comme Angela Merkel, Boris Johnson ou Justin Trudeau?
Vous savez, le président de la République... Justement, il a appelé à ce qu'un certain nombre de mesures soient prises et le ministre de l'Intérieur, hier, Christophe Castaner, a fait des annonces importantes quant justement à la doctrine pour les forces de l'ordre, à un certain nombre de procédures. Et donc je crois que le chef de l'État a été justement tout à fait attentif et vous le savez, il a souhaité déjà depuis plusieurs mois réunir la France derrière ce hashtag France Unie. France Unie pour lutter contre, naturellement, l'épidémie sanitaire qui nous a touchés. Mais France Unie, c'est beaucoup plus large. Et je crois que c'est un très bel appel qui est lancé à travers ces deux mots qui sont, je crois, parmi les plus précieux de notre vocabulaire.
Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce qu'il n'est pas sous pression actuellement, le ministre de l'Intérieur? Parce qu'on entend bien que son discours a changé entre la semaine dernière, où il déplorait tout de même ces manifestations interdites en période de crise sanitaire, et ses propos de ce matin, dans lesquels il dit « certes, en principe, ces manifestations sont interdites, mais on va bien devoir les tolérer ».
Je crois qu'il y a cette volonté, justement, de pouvoir... recoudre un tissu social qui a pu se fissurer. Et c'est là, je crois, peut-être l'analyse que vous faites sur les prises de parole du ministre de l'Intérieur. Mais je crois qu'il y a une seule chose qui nous guide, c'est la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est faire en sorte que chacune, chacun, ici, en France, puisse, pleinement se réaliser. Et d'ailleurs, c'était
ce n'est pas le cas
la promesse que portait Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle, ce souhait d'émancipation, et justement, nous l'avons mis en œuvre depuis presque 3 ans, maintenant, avec, par exemple, le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire, avec un certain nombre de mesures portées en matière de politique de la ville par Julien Denormandie, qui accompagnait justement le Premier ministre ce matin dans son déplacement dans l'Essonne, déplacement qui était auprès du monde associatif comme auprès des forces de police, parce que il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, il s'agit de réunir plus que jamais, encore une fois, toute cette France, pour qu'il n'y ait pas des Frances qui se juxtaposent, mais oui, que nous soyons, je crois, tous unis derrière cette belle promesse républicaine dont nous voulons faire non seulement une promesse, mais surtout des actes pour qu'encore une fois, chacun ait ici, en France, un avenir et un bel avenir.
Le procureur de Paris a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion donc critiquée du Covid pour déterminer si des décisions ou des manquements ont provoqué la mort ou des mises en danger d'autrui. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale vont aussi tenir leur propre commission d'enquête. Craignez-vous que l'après-Covid soit un peu un champ de bataille judiciaire, juridique ?
Enfin, l'après-Covid, vous savez, on est encore dans la gestion de l'épidémie. Nous avons encore des gens qui sont en réanimation. Le combat contre l'épidémie, il n'est pas terminé, il se poursuit. Et d'ailleurs, il est important que chacun, nous continuions à respecter les gestes barrières, prendre un certain nombre de précautions, le port des masques dans les transports en public. Donc, toutes celles et ceux
qui
se projettent
dans les manifestations,
dans l'après-Covid,
Jean-Baptiste Lemoyne, y compris dans les manifestations.
Et peut-être... Mais naturellement, il est important de prendre un maximum de précautions. Et encore une fois, moi, dans le domaine du tourisme, qui est le mien, nous veillons avec les acteurs concernés, eh bien, à concilier à la fois la reprise, la relance économique et en même temps la sécurité sanitaire. Ce sont des professionnels qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont mis en place des protocoles sanitaires pour rassurer. Et c'est important de garder à l'esprit justement, eh bien, naturellement, le besoin, le moment venu de faire un retour d'expérience, de voir où est-ce qu'il y a eu peut-être une fragilisation. Par exemple, vous prenez les chaînes d'approvisionnement. On a bien vu qu'on était trop dépendant peut-être d'un seul pays fournisseur. Et ce matin même, j'étais en réunion des ministres du commerce de l'Union européenne. Nous avons tous fait ce constat et nous avons tous décidé de travailler pour diversifier les approvisionnements, éviter qu'à l'avenir, le continent européen se retrouve peut-être trop dépendant d'une seule zone géographique ou d'un seul pays fournisseur. Ça fait partie des leçons que nous devons tirer. Et puis, ça veut dire, derrière, mettre en place la politique industrielle qui va bien pour peut-être relocaliser, avoir une politique de stockage également au niveau européen. Donc, oui, il faut tirer des leçons, avoir un retour d'expérience, mais je me méfie des tribunaux trop hâtivement constitués.
Le débat sur le déconfinement agite l'opinion. Certains considèrent qu'il faut encore être prudent, vous le dites vous-même d'ailleurs, et d'autres qu'il faut desserrer l'étau. On a entendu le professeur Delfraissy du Conseil scientifique. En ce qui concerne les bars et les restaurants, pourront-ils, d'après vous, supporter encore longtemps les contraintes sanitaires qui leur sont imposées, y compris dans les zones oranges ? C'est-à-dire des restaurants qu'en terrasse. Bon, là, vous avez remarqué, la météo n'est pas très joyeuse. Donc, il y a peu de gens en terrasse aujourd'hui. Il fait froid.
Alors, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 8 juin. Le 8 juin, Monsieur de la Palice dirait que ça fait donc 6 jours
nous
après le
9.
2 juin.
Nous sommes
et le
9,
juin, je rappelle que c'était... Pardonnez-moi. Que c'était... Voilà, je reviens, que c'était eh bien, ce moment où nous avons à la fois élargi la capacité de mobilité, puisque nous avons mis fin à cette barrière des 100 km, et en même temps, nous avons permis la réouverture importante d'une offre touristique, des restaurants dans leur ensemble dans les zones vertes, et dans les zones oranges, des terrasses, dans un premier temps. Et je peux vous dire que je continue à travailler avec les restaurateurs, mais également avec un certain nombre de professionnels du tourisme qui sont encore entravés, voire même qui ne sont pas encore réouverts. Je pense au secteur de l'événementiel, je pense au secteur de la nuit, par exemple, avec lesquels j'ai tenu des réunions, pour qu'on puisse travailler sur des modalités de réouverture, voir comment plaider ces réouvertures. Et je suis, justement, au sein du gouvernement, celui qui relaye naturellement leurs propositions. Et s'agissant des restaurateurs, moi, il me semble que l'évolution des conditions sanitaires en Île-de-France et le recul progressif, en tous les cas, du virus, devrait permettre, je l'espère, eh bien, peut-être d'avancer de quelques jours la réouverture des restaurants dans leur ensemble. En tous les cas, ce sont des propositions que nous allons faire avec les professionnels pour que eh bien, les instances interministérielles puissent, en tous les cas, se prononcer.
Alors, soyons précis, Jean-Baptiste Lemoine. Qu'est-ce que vous nous annoncez ? Une réouverture prochaine de tous les restaurants à conditions égales dans les zones vertes et oranges ? C'est bien
avant
de cela qu'il
juin,
s'agit
oui. Avant le 22
avant le 22 juin, dans les prochains jours ?
Ce que je vous dis, c'est que je suis en train de travailler, je suis à la tâche avec les professionnels pour qu'on puisse justement regarder comment évolue l'épidémie et si, en fonction de cette évolution, on ne pourrait pas justement peut-être plaider une réouverture un peu plus tôt que celle du 22 juin. Mais je suis dans mon rôle de secrétaire d'État au tourisme et après, il y a d'autres considérations qui doivent être regardées et des décisions qui doivent se prendre en interministériel. C'est pour ça que je ne fais pas d'annonce définitive. Je dis que, en tous les cas, nous sommes attentifs à la situation des restaurateurs en Île-de-France. Le chef de l'État, vous savez, il les avait reçus le 24 avril dernier et je peux vous dire une chose, c'est qu'il souhaite qu'il puisse retravailler à nouveau dans les meilleures conditions possibles, le plus vite possible. Et en tous les cas, tout cela mérite d'être examiné, notamment avec le ministère de la Santé. Mais peut-être, dans quelques jours, pourrons-nous estimer que les conditions sont réunies pour accélérer de ce point de vue-là.
Alors, est-ce que cette décision-là, dans le fond, elle ne sera uniquement avec les cafés et les restaurants, ou ça peut être les écoles on pourra élargir ce protocole qui est un peu trop étouffant? Est-ce que dans d'autres secteurs, on pourra desserrer cet étau?
Écoutez, sur les sujets scolaires, je renverrai vraiment à Jean-Michel Blanquer. Vous savez, ici, dans ce gouvernement, justement, chacun travaille sur son domaine et c'est ça qui fait qu'il y a un travail efficace. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que, avec Bruno Le Maire, avec Jean-Yves Le Drian, nous sommes mobilisés pour que l'ensemble de l'économie puisse repartir, je dirais, et remonter en charge très vite, parce qu'il faut voir que pendant 2 mois et demi, nous avons finalement mis un peu sous cloche cette économie, avec certes des aides considérables, massives, en matière par exemple d'activité partielle pour préserver les emplois, préserver les talents, faire en sorte qu'on puisse rebondir dès lors que le déconfinement s'opérait. Et vous savez, je suis également de près les sujets de commerce extérieur. Hélas, ce matin, nous avons eu les chiffres de l'export du mois d'avril qui montrent que nous avons massivement décroché en matière d'export au mois d'avril, et pour cause, il y avait ce confinement, et il y a ce besoin de faire repartir notre appareil productif pour pouvoir aussi pérenniser les emplois, pérenniser les entreprises, et c'est pourquoi nous travaillons effectivement à desserrer les taux. Vous avez entendu les propos du professeur Delfrécy, du président du conseil scientifique, très encourageant, disant que l'épidémie était sous contrôle, et je crois que on l'a vu dans un certain nombre de secteurs, le bâtiment, ça y est, c'est reparti, et qu'on doit amplifier cette reprise pour revenir au plus vite à nos capacités de production d'avant, parce qu'encore une fois, vous savez, il y a une compétition internationale, il s'agit naturellement de ne pas prendre de risques, de prendre toutes les précautions sanitaires, mais on le voit, le redémarrage, il se fait notamment à l'Est, en Asie, et nous devons, je crois, également être présents.
Deux questions. La première, très simple. Vous nous dites que c'est en cours de discussion pour les bars et les restaurants. Nous sommes le 9 juin et vous nous dites que ça pourrait rouvrir avant le 22. Il va quand même falloir faire vite si on veut effectivement gagner quelques jours. Donc, première question, ça pourrait être quand? Après-demain, début de semaine prochaine. Première chose. Et ensuite, les salles de spectacle. Il y en a, par exemple, qui font partie du patrimoine touristique. Les touristes étrangers qui viennent en France, il y en a beaucoup qui vont au Moulin Rouge, par exemple. Je prends celui-là, mais il y en a d'autres. Est-ce que là, quelque chose est prévu aussi?
Alors, 2 semaines nous séparent du 22 juin, et donc, en 14 jours, on voit que...
Deux petites semaines, si vous comptez bien.
Dans les prochains jours, eh bien... Exactement, 2 petites semaines, on est précis, hein, voilà, oui, 14 et 8, 22, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça signifie que si nous prenons des mesures dans quelques jours, elles pourraient s'appliquer par anticipation. Je mets tout ça au conditionnel, parce que c'est un travail interministériel, mais moi, je m'attache, avec les professionnels, en tous les cas, à faciliter cette prise de décision, à montrer que nous avons des professionnels responsables, qui ont mis en place des protocoles sanitaires, qui, on l'a vu, sont justement désireux d'accueillir dans les meilleures conditions le public. Vous savez, ce sont des gens engagés pour qui faire plaisir aux autres est un plaisir pour eux. Oui. Donc, je crois que le travail, je l'espère, pourra déboucher très prochainement et que nous pourrons à nouveau, effectivement, jouir de ces petits plaisirs du quotidien que sont un bon dîner entre amis en respectant les tablées telles qu'elles sont.
Et les salles de spectacle.
De 10, mais en tous les cas, qui sont constitutifs de l'âme française. Et s'agissant des salles de spectacle, alors Franck Riester est à la manœuvre sur les sujets culturels, mais pour avoir travaillé avec justement le secteur de la nuit, qui comprend certaines de ces salles, il y a naturellement l'envie de pouvoir refaire vivre ces lieux. Et là aussi, ils sont en train de me faire des propositions en matière de modalités de réouverture.
Autre question que les Français se posent, c'est d'abord pourront-ils, pour les vacances, partir à l'étranger ou préconisez-vous un été français, justement, pour faire redémarrer l'économie du pays ?
Alors, je plaide pour un été bleu-blanc-rouge. Et effectivement, il est important, je crois, de pouvoir montrer la solidarité vis-à-vis des professionnels du tourisme qui ont été très durement touchés, qui ont souffert. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a tout simplement, je crois, le goût du voyageur et du voyageur français de se trouver rassuré. Et il se trouve que les enquêtes d'opinion, d'ailleurs, montrent que les Français, spontanément, souhaitent, dans un premier temps, plutôt rester en France, se retrouver dans un cocon peut-être familial, redécouvrir la maison de campagne du grand-père ou de la belle-mère. Et je crois que nous avons cette chance en France d'avoir une diversité des territoires, une diversité des expériences phénoménale. Vous pouvez faire le tour de France et en fait, vous avez l'impression de faire le tour du monde.
Oui, alors l'outre-mer, par exemple.
Je crois qu'un certain nombre de clichés illustrant d'ailleurs. Oui.
L'outre-mer, pardonnez-moi, parce qu'on en a bientôt terminé. L'outre-mer, est-ce qu'on pourra s'y rendre et dans quelles conditions ? Puisqu'il y a des mises en quarantaine, il me semble encore.
Tout à fait. Tout à fait. L'outre-mer, le Premier ministre l'a dit très clairement le 14 mai, nous pourrons partir en vacances en France métropolitaine et outre-mer. Et donc, Annick Girardin l'a annoncé avant-hier, à partir du 22 juin, il n'y aura plus justement de motif impérieux pour se rendre outre-mer. Donc, et puis, de la même façon, les avions pourront être comprendre plus de passagers. Donc, il y aura cette capacité à se rendre outre-mer. Et nous sommes en train de travailler aussi à un allègement des mesures de 14 D'ores et déjà, il y a une capacité à faire un test quelques jours avant le départ, puis pendant 7 jours à se montrer prudent et à faire un deuxième test. Et je sais qu'Annick Girardin souhaite continuer à travailler avec le Conseil scientifique vers un allègement de ces procédures. Il y a un tourisme affinitaire qui est très fort outre-mer, mais au-delà du tourisme affinitaire, je crois que de nombreux Français pourraient avoir l'occasion de découvrir ces beaux territoires qui aussi participent de l'attractivité de la destination France.
Juste une dernière question. Le plan de relance du tourisme, 18 milliards d'euros. Une réponse courte, s'il vous plaît, c'est bientôt terminé. Est-ce que c'est suffisant, ces 18 milliards d'euros, ou il va falloir remettre la main à la poche pour ce secteur du tourisme ?
Avec ces 18 milliards d'euros, on donne de la visibilité aux professionnels jusqu'à la fin de l'année sur l'activité partielle, sur le fonds de solidarité. Ça permet d'éponger les loyers, par exemple. Et surtout, on apporte aussi des réponses à moyen terme parce que ce sont des investissements avec la Banque des Territoires, avec la Banque publique d'investissement pour aider aussi ces professionnels à aller vers un tourisme toujours plus digital, toujours plus durable. Et donc, voilà, on a mis le paquet pour eux. La destination France doit rester la première dans le monde.
Merci Jean-Baptiste Lemoine. Merci.
Merci beaucoup. Merci à Charlotte Urien-Tomaka et avec vous, Monsieur le Ministre, Douglas Dunton, qui s'est occupé de vous arnacher. Merci à tous et merci à l'équipe technique et à très vite.